archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour et merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. La période des fêtes est terminée et les emballages en plastique se sont accumulés dans vos poubelles. Jaunes, bien sûr, puisque vous triez vos déchets comme c'est désormais l'habitude. Le plastique est entré dans nos vies au début du XXe siècle. Il est considéré comme un progrès jusque dans les années 60. Quand les décharges en sont saturées, que de nombreux déchets commencent à apparaître dans la nature, l'inquiétude grandit parmi les écologistes. Le plastique met très longtemps à se dégrader et se concentre dans les océans au point de former ce qu'on appelle le continent de plastique. L'archive que nous allons écouter ne fait qu'effleurer ce qui va devenir au XXIe siècle la critique massive et globale du plastique. Normal, on est en 1999. Écoutons ce qu'on en dit à l'époque et on se retrouve dans 20 minutes pour évoquer la situation aujourd'hui.
Fréquence Terre.
Bonjour, Ben Kramer. Aujourd'hui sur Fréquence Terre, le plastique, un pollueur encombrant. Le plastique est partout. Des sandales en PVC qui ont conquis les plages, aux milliers de sacs distribués gratuitement à la sortie des supermarchés, jusqu'aux bouteilles d'eau et de coca. Ce n'est pas facile de décrire les maillons de la chaîne, depuis l'industrie pétrolière jusqu'aux débouchés dans le textile. Mais enfin, les plastiques encombrent nos poubelles tout en faisant partie de notre quotidien. Voyons maintenant si, du point de vue écologique, ils représentent une menace. Le point tout de suite avec le directeur du département filière chez Eco-Emballage, une société née il y a 6 ans et qui a pour mission de récupérer les emballages des ménages. Yvan Lisiard.
En matière d'image, le plastique, on va dire, a une mauvaise image qui est surtout liée, non pas aux bouteilles, je ne pense pas que la bouteille ait une mauvaise image, mais beaucoup plus aux emballages souples, très légers, de style sac de caisse, qui, de par sa légèreté, se trouve emporté par le vent et va s'accrocher dans les arbres et autres. La pollution, c'est également la pollution visuelle. Et ça n'est pas nécessairement qu'une pollution matière ou pollution de l'eau ou pollution de l'air.
Si le plastique dérange et dénature le paysage, les conséquences de son usage intensif, c'est avant tout des dégâts d'ordre visuel. Selon le monsieur environnement du syndicat des industries de producteurs du plastique, c'est évident. Au micro, Roland Rugliano.
C'est un dégât esthétique qu'il faut pas négliger parce que effectivement c'est moche, mais c'est pas un dégât avec danger. Il y a strictement aucun danger associé à ce dégât-là. Et il n'y a pas non plus de destruction des ressources de la planète outre mesure. Parce que s'il n'y avait pas toutes ces bouteilles en plastique, il y aurait exactement le même nombre de bouteilles mais dans d'autres matériaux et qui seraient infiniment plus lourdes. Et faites aussi le calcul, si on en recycle la moitié, il y en aura une masse énorme qui va se retrouver à la décharge.
Nous parlerons des décharges par la suite, et pour cause. Le plastique a pour principal inconvénient, ou avantage diront certains, de ne pas se dégrader. Plaidoyer de Roland Rugliano.
Sa principale vertu, c'est faire énormément avec très peu. C'est-à-dire, on utilise très peu de ressources de cette petite planète, et avec ça, on fait des articles extrêmement performants dans tous les domaines.
Par exemple ?
Écoutez, essayez d'imaginer un téléphone portable s'il n'y avait pas de plastique. C'est tout à fait impossible. Tout est en plastique là-dedans, de A jusqu'à Z. Le cadran transparent, le boîtier, l'antenne, les boutons, la partie souple qui sert de ressort sous les touches, tout est absolument en plastique, à part quelques grammes de batterie et quelques milligrammes de cuivre. Et s'il n'y avait pas de plastique, c'est bien simple. Il faudrait une brouette pour transporter un téléphone portable, qui ne serait plus portable, ce qui fait qu'il n'existerait plus.
Une chose est sûre, À l'heure du recyclage que l'État impose aux entreprises depuis 1992, les choses ont bougé en France. Les entreprises sont de plus en plus concernées, comme le confirme d'ailleurs au Salon Polytech à Paris Pierre-Olivier Viac du Centre de formation et de documentation sur l'environnement.
C'est vrai que les déchets plastiques posent plus de problèmes que les cartons, les palettes ou les choses comme ça.
Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce qu'il y a moins de filières, aujourd'hui. Les papiers cartons, bon, ben il y a des papeteries qui peuvent les reprendre. Les déchets de plastique, surtout s'ils sont en mélange, pour l'instant, c'est pas évident, quoi. Puis ça a un coût qui est supérieur aux déchets de papier carton, par exemple. Donc c'est pour ça qu'au niveau des entreprises, c'est pas évident, quoi. Mais c'est pas non plus les plus grosses quantités de déchets. Hein. Dans les entreprises, c'est plutôt du papier, du carton, des palettes, des choses comme ça. C'est pas tellement des déchets de plastique.
Près de 50% des Français se déclarent prêts à séparer les bouteilles plastiques des autres déchets. Ça ne fait que la moitié. Mais cette histoire de tri et de collecte n'est pas si simple à mettre en œuvre, si on pense par exemple aux bouteilles dont les bouchons sont en aluminium. Explication de Salvatore Di Mattia, de la société Reval Service, chargé spécialement de la collecte et du tri.
Il est vrai que les tonnages vont sans cesse croissant et nous cherchons chaque jour des solutions pour recycler ces matières et pour trouver une application à un nouveau produit fini. Aujourd'hui, ce que nous traitons principalement, ce sont les déchets industriels. Nous sommes obligés, je dirais aujourd'hui, du fait que les collectivités nous sollicitent à recycler également les déchets plastiques issus des ordures ménagères. Je pense notamment aux bouteilles, bouteilles PET, bouteilles PVC. Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux débouchés. Heureusement ou malheureusement, je dirais que les tonnages vont sans cesse croissant parce que aujourd'hui les Français, les pays européens, je dirais tous les pays du monde, se sont mis à la collecte, au tri de ces produits. Et donc ça génère de plus en plus de tonnes à laquelle il faut trouver une application. Plus nous trions les déchets ménagers, plus cela fait que nous retrouvons ces produits sur le marché, à laquelle il faut donner une application.
Comme on vient de le voir, le recyclage passe d'abord par la collecte et le tri. Mais regardons de plus près les débouchés des plastiques usagés. Salvatore Di Mattia.
Les sacs en plastique, en polyéthylène, donc le sac poubelle que l'on rencontre, le sac de supermarché, qui lui est en polyéthylène haute densité, basse densité, ce genre de produit trouve aussi aujourd'hui application dans la fabrication de nouveaux sacs poubelles. Incorporer le régénéré que l'on en fera sera incorporé à hauteur de 30 ou 40%, mais il existe aussi certaines entreprises qui fabriquent du sac poubelle à partir de ces déchets 100% recyclés.
On appelle valorisation tout traitement de déchets qui permet de leur trouver une autre utilisation ayant une valeur économique positive. C'est pas toujours le cas. Le recyclage ne concerne qu'une faible partie des matières plastiques. Juste quelques chiffres révélateurs. Sur les 900 000 tonnes produites en France par an, 60 000 tonnes seulement sont recyclées. Le reste est incinéré ou mis en décharge. On pourrait faire mieux. Et d'autant mieux car les décharges doivent disparaître d'ici 2002. Pourtant, les producteurs de plastique ne semblent pas souffrir d'une mauvaise conscience environnementale. Explication Roland Rugliano.
Oui, les plastiques sont des grands incompris sur la question du recyclage. En fait, les plastiques sont tout aussi recyclables que n'importe quel autre matériau et cependant, il y a peu de plastique recyclé. Alors, c'est une surprise, mais c'est malheureusement tout à fait explicable. Et ça n'est pas honteux pour les plastiques. Eh bien, prenez par exemple les emballages. Les bouteilles en verre sont recyclées à environ 50%, ce qui est le taux de la collecte, tout simplement. Tout ce qui est collecté est recyclé. Et pour les plastiques, le recyclage est de l'ordre de... si on prend l'ensemble des emballages plastiques, il est de l'ordre de 8% pour l'instant. Donc il est en progression vers les 15% réglementaires qui seront exigés dans quelques années.
2002.
Voilà. Mais pour l'instant, on est à un niveau beaucoup plus bas que pour le verre. Mais il y a une excellente raison pour ça. Il est beaucoup plus profitable pour l'environnement, pour les consommations de ressources naturelles, d'alléger un objet que de l'alourdir pour le recycler. Et quand on a fabriqué une bouteille en plastique à 30 grammes, on a fait déjà un boulot énorme que n'importe quel recyclage est incapable d'obtenir. Donc le plastique, en travaillant sur des produits très légers, a déjà donné pour l'économie des ressources, et ce serait une deuxième exigence sur le peu qu'il a employé que d'exiger de lui de recycler le reste.
Pour Yvan Lisiard de l'entreprise Eco-Emballage, le recyclage ne se justifie pas toujours et en plus, il coûte cher.
Nous ne recyclons pas par exemple les pots de yaourt. On ne recycle pas les pots de yaourt parce que nous avons considéré que le recyclage qui nécessiterait du lavage, énormément de mise en place de techniques, d'une part, ne faisait que déplacer un problème de pollution et qu'au lieu d'avoir une pollution matière avec un déchet, nous risquions d'avoir des pollutions aqueuses avec des eaux de lavage qu'il faudrait derrière traiter. Et qu'ensuite, les coûts inhérents à la mise en place de tels recyclages étaient disproportionnés par rapport au faible gain environnemental qu'il pouvait y avoir, alors que l'incinération de ces matériaux génère de l'énergie, une incinération toujours, comme je l'ai dit, en respectant les normes, génère de l'énergie et permet de manière intelligente de valoriser l'ensemble de ces matériaux. Donc nous sommes toujours en train de rechercher cet équilibre qui, je le répète, est toujours plein de bon sens, qui fait qu'aujourd'hui, sur les matières plastiques, nous nous focalisons sur le recyclage de ce que l'on appelle des bouteilles, simplement, quelles qu'elles soient.
Et ça, c'est un chiffre, c'est un coût, ça.
Alors ça, c'est un coût, bien évidemment.
C'est un coût, c'est à peu près combien et...
Alors, le recyclage des matières plastiques est plus élevé que la matière première vierge. Le coût d'accès, ce sont des emballages qui sont extrêmement légers. Le coût de collecte et de tri est un coût qui est élevé, qui peut aller jusqu'à 6 000 francs la tonne. Ensuite, ces matières qui sont récupérées auprès des collectivités locales ne sont pas toujours prêtes à l'emploi par les industriels. Donc il va falloir les purifier. Il va falloir enlever l'étiquette en papier, il va falloir enlever la colle, il va falloir enlever les bagues en aluminium éventuelles qu'il peut y avoir. Donc il va falloir faire subir à ces emballages des opérations de lavage et de purification de ces flacons. Tout ceci a également un coût qu'il faut assumer. Et la matière, après, bien évidemment, a une valeur marchande. Mais globalement, le recyclage est économiquement non intéressant.
C'est peut-être pour ça qu'il ne se développe pas tellement entre nous, ou pas ?
C'est peut-être pour ça qu'il ne se développe pas tellement, mais c'est surtout parce que, bien que les industriels se soient engagés à respecter leurs engagements, ça se développe moins que d'autres matériaux parce que, qu'il n'y a pas cette économie qui peuvent intéresser des industriels et qu'on est beaucoup plus dans une logique de recherche de solutions à une mise en décharge pour ces matériaux qu'autre chose.
La mauvaise image du plastique provient aussi et surtout du polychlorure de vinyle, qu'on appelle par ses initiales le PVC. Il est utilisé principalement dans le bâtiment, pour les canalisations, les cloisons, les fenêtres, les tableaux de bord des véhicules, etc. Le PVC est très controversé et pour cause. S'il est brûlé, dans des incinérateurs par exemple, il dégage de la dioxine, et la dioxine est accusée d'être cancérigène. Pour l'association écologiste Greenpeace, le PVC est un déchet toxique déguisé. Mais chez les producteurs de plastique, on minimise complètement ces dangers. Roland Rugliano.
Eh bien écoutez, le PVC, il a l'immense avantage d'être composé pour moitié de sel de mer, sous la forme de son atome de chlore. Et c'est aussi ce qui fait sa malédiction, parce que sous prétexte qu'il s'agit d'un atome de chlore, tout le monde s'imagine que c'est dangereux comme le gaz chlore. Or, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'est pas plus dangereux sous forme de PVC que le sel de cuisine n'est dangereux. Et la légende, malheureusement, est entretenue par quelques groupes écologistes bien connus qui veulent à tout prix faire bannir ce produit de l'utilisation par les industries qui organisent une sorte de boycott et qui, de ce fait, espère trouver des cotisants, quoi, puisque c'est son fonds de commerce. Ça n'a strictement rien à voir avec des considérations d'ordre environnemental. D'ailleurs, chaque fois que le PVC a été accusé de dommages à l'environnement, il y a eu procès et procès perdu par Greenpeace parce qu'il n'a jamais pu démontrer la nocivité du PVC d'une façon quelconque sur l'environnement, sauf à dire que, comme toute activité humaine, il y avait forcément un impact avec des déchets, avec des rejets gazeux, ce qui est le cas quand vous respirez.
Autre son de cloche avec le directeur de l'association Greenpeace France à Paris, Bruno Rebelle.
À l'origine du PVC, il y a l'industrie du chlore. Cette industrie est très polluante, en particulier à l'origine de la destruction de la couche d'ozone. Et qu'en fin de cycle de vie, le PVC est un produit qu'on recycle très très mal et dont la destruction relargue dans l'environnement des quantités de dioxines très importantes, dioxines dont on connaît maintenant la toxicité et surtout la très grande stabilité. Mais je pense que dans la mesure où cette industrie, depuis des dizaines et des dizaines d'années, cherche à imposer le PVC comme la matière plastique qui offre toutes les solutions, on n'attend pas de cette industrie qu'elle dise que Greenpeace a raison quand Greenpeace tire la sonnette d'alarme pour dire attention, cette matière-là est particulièrement polluante et surtout, regardez, il y a des tas d'alternatives. Ça demande effectivement une forme de révolution de l'appareil industriel qui a opté pour le PVC. Révolution qui demande bien sûr des changements, des investissements et on comprend sans l'admettre que les industriels renâclent. On s'est particulièrement intéressé dans ce domaine-là aux jouets en PVC souple, puisque le PVC est une matière plastique qui est rigide au départ. Pour la rendre souple, on la mélange avec des phtalates, qui sont d'autres additifs chimiques. Le problème est que ce mélange n'est pas stable, et que petit à petit, ces phtalates sont relargués, par exemple dans la salive des enfants qui jouent avec ces anneaux de dentition ou ces petits animaux en plastique souple. Et on s'est rendu compte de la toxicité pour le foie, pour le rein, pour le système endocrinien de ces phtalates. Et donc on a mis en évidence ce problème-là, et maintenant, dans toute l'Europe pratiquement, ces jouets en PVC souple sont interdits, et là aussi, on oriente les industriels vers d'autres alternatives, en plastique souple, qui n'utilisent pas, qui ne font pas référence au PVC. Ce qui est petit à petit une façon de travailler sur tous les domaines dans lesquels le PVC est utilisé. De la même façon, les poches pour les sérums injectables en médecine ou les poches pour les transfusions sanguines, tous les cathéters, un certain nombre d'instruments comme ça médicaux qui sont en plastique souple sont jusqu'à maintenant encore en PVC souple additionné de phtalates avec les mêmes problèmes que ceux que je viens d'évoquer pour les jouets souples. Et on demande là aussi à ce que ces industriels passent à des alternatives. De grandes entreprises du secteur l'ont déjà fait d'ailleurs.
Sur ce débat qui peut difficilement réconcilier Greenpeace et l'industrie des plastiques, il faudrait préciser que l'industrie du PVC se développe en Amérique latine et en Asie. Au même moment, les pays nordiques, l'Allemagne, la Suisse sont en train d'en restreindre son utilisation. Le point avec Yvan Lissiard de la société Eco-Emballage.
Le PVC est un matériau qui a été énormément utilisé en France au niveau des boissons. C'est un matériau qui était attaqué pour des raisons d'émissions de dérivés chlorés lors de son incinération. C'est néanmoins un excellent matériau, puisque c'est un matériau qui est utilisé en habitation, qui est utilisé dans tous les hôpitaux. Mais c'est vrai que son incinération, lorsqu'elle était mal faite, sans respect des normes, pouvait procurer quelques émissions qui sont relativement dangereuses.
Par incinération,
production de gaz acides, production éventuelle de dérivés de type dioxine ou autre, ceci est exact. Le PVC aujourd'hui a, je dirais, quasi disparu du paysage des emballages ménagers. Il aura définitivement disparu dans quelques mois. Et il a été remplacé par du PET, qui est un dérivé également issu du pétrole, mais ne contenant pas de molécules de chlore, donc dont l'incinération n'est qu'une incinération qui ressemble à celle des dérivés pétroliers.
Pour confirmer cette thèse, rappelons que le géant de l'automobile General Motors aux États-Unis vient d'annoncer que d'ici l'an 2004, l'ensemble des véhicules qui sortiront de ses usines seront exempts de PVC. Mesures écologiques ? Mesures de relations publiques ? Selon Roland Rugliano, ce sont d'abord des impératifs économiques.
Ce qui fait que les bouteilles PVC ont été presque totalement remplacées par des bouteilles PET, c'est la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est que les techniques de transformation du PET sont arrivées à maturité. Il fallait des matériels pour former les bouteilles qui n'existaient pas sur le marché il y a 10 ans. Et d'autre part, le prix du PET a fortement baissé, ce qui fait que le produit est devenu compétitif économiquement et techniquement. Donc c'est une mutation tout à fait normale dans la concurrence entre les matériaux.
Sachant qu'on va être de plus en plus exigeant avec les normes environnementales et que les ressources pétrolières elles-mêmes sont limitées, les industriels sont désormais à la recherche d'alternatives. Y en a-t-il ? Une équipe de chercheurs américains, sponsorisée par la multinationale Monsanto, vient de mettre au point un plastique produit à partir de plantes. C'est ce que révèle ces jours-ci le mensuel Nature Biotechnology. Alors, va-t-on demain remplacer nos sacs en plastique par des objets biodégradables ? Réponse de Yvan Lisiard de l'entreprise Eco-Emballage.
Il existe bien évidemment aujourd'hui sur le marché des plastiques qui sont compostables, qui ne sont pas d'origine pétrolière et qui sont des plastiques d'origine agricole à partir d'amidon venant du maïs ou venant d'autres matières premières. Ce sera peut-être la voie du futur. Aujourd'hui, ces matériaux qui commencent à venir sur le marché, qui pourraient être compostés, ne le seront pas. Aujourd'hui, ils ne le seront pas parce qu'ils nécessiteraient une collecte sélective. Donc des coûts beaucoup trop importants.
Oui, les scientifiques s'intéressent depuis longtemps à la production de plastique à partir de sources naturelles. Le PHBV, c'est son nom, peut être produit à partir de bactéries, mais le processus est 5 fois plus coûteux que les procédés conventionnels. En attendant, les industriels du plastique ne semblent pas se bousculer pour se reconvertir. Explication avec Roland Rugliano.
La malédiction du biodégradable, c'est que on voudrait qu'il soit parfaitement inerte pendant tout le temps où on s'en sert et que dès qu'on a fini de s'en servir, il s'évapore. Malheureusement, c'est pas comme ça que se passent les phénomènes. La biodégradation, elle commence au premier jour et elle se poursuit très très lentement jusqu'à disparition. Alors, il faut que l'article reste stable ou que ça soit invisible ou immesurable pendant le temps d'utilisation, et que ce temps d'utilisation écoulé, il puisse se dégrader dans un délai raisonnable. C'est la difficulté. Dès qu'on demande une durée de vie de l'article assez longue, ce qui est le cas d'une bouteille d'eau, par exemple, quand on regarde la date limite, c'est dans, je crois, 1 an ou 2, ce qui est gravé sur la bouteille. Il est bien évident que si ça reste stable pendant 1 an ou 2, on ne peut pas avoir de dégradation en 6 mois dans un composteur. C'est tout à fait impossible. Donc l'utilisation du biodégradable ne peut s'envisager que sur des utilisations extrêmement courtes. Pourquoi pas un sac de sortie de caisse, puisque ça sert une fois, on s'en sert ensuite pour mettre les déchets de la maison dans la poubelle. Ça fait partie des choses où le compromis entre une durée de vie très courte et un délai de compostage raisonnable, où effectivement le produit ne reste pas visible pendant des années, c'est un des rares cas où c'est possible. Vous ne pouvez pas faire ça avec un appareil photo ou avec un ordinateur. Il est évident que dans la plupart des marchés des plastiques, le plastique est utilisé justement parce qu'il est non dégradable. C'est sa grande stabilité, sa grande inertie aux intempéries, aux produits chimiques, etc., qui fait qu'il a été choisi. Donc on ne peut pas avoir une chose et son contraire en même temps.
Chaque Français produit 400 kg de déchets par an. Le plastique, lui, ne représente que 15 kg. Mais avec ou sans PVC, c'est pourtant 15 kg de trop. Nous sommes tous concernés et qu'on soit pour ou contre le plastique, à chacun de balayer devant sa porte. C'était Fréquence Terre. Réalisation, Marc Delouvrier. Mixage, Cyril Etienne. Entretien et présentation, Ben Kramer. C'était une émission du service magazine de Radio France Internationale.
Voilà, reportage produit en novembre 1999. Depuis, la critique du plastique se concentre sur trois aspects. Environnemental, toujours, mais aussi sanitaire et économique. La critique environnementale est la plus ancienne, la plus visible. L'archive l'évoque déjà largement. La critique sanitaire commençait à apparaître à l'époque. Elle est devenue majeure aujourd'hui. La présence de microplastiques dans le corps inquiète les médecins et la bataille contre les additifs chimiques s'est développée. Et puis la critique économique remet en question le mythe du plastique bon marché. Le recyclage est coûteux, incomplet et consomme beaucoup d'énergie. Sur le long terme, le plastique n'est pas rentable. En tout cas, il n'est plus aujourd'hui seulement un matériau, il est devenu l'incarnation de la société de consommation que certains remettent en question. Alors que faire si vous êtes de ceux-là ? Eh bien peut-être réfléchir à deux fois avant d'acheter quoi que ce soit emballé dans du plastique et renoncer parfois. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site alternantefm.fr et pensez à envoyer le lien à vos amis. Musique maintenant, qui a bien pu écrire une chanson sur le plastique ? C'est le groupe Trio qui s'en charge avec l'air ailleurs du plastique. L'air du plastique, Trio.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur.
Bonne année à tous et à la semaine prochaine.
De bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre ego de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans.
Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais, main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde, cette terre est juste de passage pour flatter votre écho de passage.